Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. Aujourd'hui, eh bien, l'art-thérapie, comment s'épanouir à travers l'art? Alors, vous avez souvent fait de l'art, vous êtes sans doute musicien, auteur, et vous sentez bien. Et vous avez raison de vous sentir bien. On parlera de ce sujet pendant 60 minutes à l'émission. Nous aurons comme invité Diane Ranger, professeure et co-responsable du programme en maîtrise en art-thérapie de l'UQAT. Ensuite, nous aurons Bénédicte Deschamps, art-thérapeute, qui a travaillé pendant 12 ans en milieu carcéral. Oui, comment ça se passe en prison? Parce qu'il y a de l'art également et ça fait énormément de bien aux gens. Et ça, on n'en doute pas, mais on va en parler. Parce que c'est vraiment très très peu connu aussi, naturellement. Hein. Ensuite, nous aurons Lola Noël, directrice générale de La Fenêtre. C'est un centre d'immersion aux arts et c'est en Mauricie. Et puis, maître Hélène Sioux-Trudel, directrice et fondatrice du garage à musique du docteur Julien sera en studio. Notre coup de chapeau pour cette semaine, ce sera Lorraine Palardi. Elle est présidente fondatrice eh bien, des Impatients. Ça, vous entendrez parler, on va savoir comment ça fonctionne. Tout ça aujourd'hui aux questions de Sophie, mesdames, messieurs. Vous savez que nous sommes en direct de Claudia Benoît et Lan Studio pour recueillir vos commentaires pendant 60 minutes. Bien évidemment, nous avons déjà reçu un commentaire sur Twitter de Serge Ouellette qui dit « Moi, la littérature incluant la poésie pour l'art-thérapie, ça lui fait beaucoup de bien ». Alors, on va tout de suite à notre première invitée, Diane Ranger, professeure et co-responsable du programme en maîtrise en art-thérapie de l'UQAT. Bonjour, Madame Ranger.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien, merci.
Alors, quand... Oui, ça va très bien. Quand je disais qu'en introduction que ça faisait du bien, l'art-thérapie, comment on l'enseigne, l'art-thérapie? Comment ça se passe en milieu universitaire?
D'accord, en milieu universitaire, c'est au niveau de la maîtrise. En fait, il y a deux programmes qui existent à l'UQAT. Il y a un micro-programme qui est beaucoup axé sur le travail sur soi pour que les étudiantes apprennent à bien se connaître, à bien maîtriser ce que c'est l'art-thérapie, et ensuite, il y a la maîtrise, et la maîtrise sert à ce moment-là à développer les outils à utiliser avec les personnes en art-thérapie.
Alors justement, on met la table avec vous. Qu'est-ce que c'est l'art-thérapie? Comment ça a été prouvé et qu'est-ce que c'est? Là, si on a le décrire l'art-thérapie, qu'est-ce que c'est?
D'accord. Alors l'art-thérapie, c'est une discipline des sciences humaines. C'est un peu une forme de psychothérapie, mais en utilisant les moyens artistiques, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, le dessin, le collage, tout ce qui est des médiums artistiques. Ça peut être aussi la vidéo, ça peut être différents outils qu'on utilise afin d'aider la personne à se sentir mieux ou aller dans un processus de guérison personnelle. Mm-hmm. Certains art-thérapeutes sont psychothérapeutes. Actuellement, d'autres ne le sont pas.
OK. Donc, on voit une différence là-dedans. On n'est pas obligé d'être thérapeute pour enseigner l'art-thérapie?
Pour enseigner l'art-thérapie, il faut être art-thérapeute, oui.
Oui.
Il faut avoir au minimum une maîtrise en art-thérapie okay. Et un doctorat. Tout le monde qui est à l'UQAT actuellement a un doctorat, mais pas nécessairement en art-thérapie. Ça peut être en psychologie, ça peut être en éducation selon la formation qu'ils ont reçue, mais on a tous une maîtrise minimum en art-thérapie.
Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans cette maîtrise? Qu'est-ce qu'on voit, les cours? Parce que, bon, si je comprends bien, et heureusement, c'est vraiment une profession qui est très encadrée.
Oui, oui, oui. Oui, c'est une profession encadrée, sauf que le titre de psychothérapeute, le titre d'art-thérapeute n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation. Donc, il faut vraiment se renseigner quand on fait appel à un art-thérapeute. Il faut vraiment se renseigner pour s'assurer qu'elle détient une maîtrise en art-thérapie et fait partie de l'Association des art-thérapeutes. Mm-hmm. C'est la façon qu'on encadre la profession. Toutes nos étudiantes, on les encourage à la fin de leur maîtrise à entrer dans l'association des art-thérapeutes afin justement qu'elles soient encadrées dans leur pratique.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on y apprend donc sur les bancs d'école au niveau de la maîtrise? Qu'est-ce qu'on peut voir dans l'agenda là, d'une étudiante et d'un étudiant quand on s'attend à prendre cette formation de art-thérapeute?
D'accord. Alors, dans les cours d'introduction, il y a d'abord, comment utiliser l'art en thérapie, c'est-à-dire comment se servir des dessins, de la peinture comme moyen de communication avec les clients. Mm-hmm. C'est sûr qu'en tant qu'art thérapeute, on ne met pas l'accent sur le côté esthétique de l'œuvre, c'est plus sur le moyen de communication. Donc, on va apprendre aux étudiantes à observer les lignes, comment la personne peint, par exemple, est-ce qu'elle peint avec tout son corps, est-ce qu'elle prend son pinceau du bout des doigts. Ça donne des indices sur comment se sent la personne. Alors, on va aller dans ce sens-là pour que l'étudiante soit vraiment habilitée à être en lien avec sa cliente, puis avoir des renseignements sur sa cliente, cliente ou client, bien entendu, par sa façon de travailler avec les outils artistiques et le dessin lui-même aussi.
Et donc, vous observez la personne, comment elle va tenir son pinceau, quelle couleur elle va mettre.
Oui.
Comment elle va? Est-ce qu'elle va être en silence? J'imagine que toute l'analyse se fait là-dedans.
Oui, le silence, la parole. Il y a des personnes qui parlent en dessinant, il y en a d'autres qui ne parlent pas. Alors, tout ça compte dans le lien qui s'établit entre le thérapeute et le client.
OK. Et je reviens toujours à la formation universitaire. Donc, c'est ça, vous leur apprenez à regarder plus le peintre que la peinture.
C'est les deux, mais effectivement, c'est plus le processus de création qui est aussi important que l'image elle-même. Parfois, par exemple, dans les collages, l'image va devenir importante comme moyen de communication. Par exemple, si une personne met un chat dans son image, on va essayer d'aller trouver quel sens le chat a pour la personne. Des fois, c'est un animal qui va être son ami. D'autres fois, ça va être une représentation de sa mère. Il n'y a personne qui va avoir dans les images la même signification. Alors, c'est d'aller chercher plus personnellement ce que ça signifie pour le client.
Le but, est-ce que c'est de soulager, de dire, de faire du bien? Qu'est-ce que vous apprenez à vos étudiants?
Tout ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire soulager, faire du bien, se sentir mieux. Il y a des art-thérapeutes qui vont travailler, par exemple, avec l'idée du beau, du bon et du bien. Alors, quand une personne se sent belle, se sent bonne et se sent bien, c'est sûr que sa vie va mieux. Alors, c'est dans ces concepts-là qu'on va travailler en art-thérapie. C'est ça.
Comment vous voyez votre utilité par rapport à l'art, par rapport à ce que vous faites, votre métier?
Comment je vois l'utilité? À tous les jours, je vois chez mes clients des processus qui se font où est-ce que je vois qu'elles se découvrent elles-mêmes. C'est beaucoup une façon d'entrer à l'intérieur de soi, l'art thérapie. Elles prennent conscience d'elles-mêmes, elles prennent conscience de leurs valeurs, de leurs idées, de ce qui est important pour eux. Elles prennent conscience parfois... je vais recevoir, par exemple, une personne qui est souffrante physiquement et elle est beaucoup dans sa souffrance, alors je peux l'amener ailleurs, puis dire, bon, OK, t'as mal à tel endroit, est-ce qu'il y a des endroits de ton corps qui te font pas mal? Et dessine-moi les endroits de ton corps qui te font pas mal. Donc, ça va amener la personne, plutôt que de rester dans sa souffrance, ça peut l'amener ailleurs, ou est-ce qu'elle ne souffre pas? Des fois, on a mal un bras, puis on focus sur la souffrance du bras, et tout d'un coup, de l'amener ailleurs peut amener, c'est vrai, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal... Alors, vous voyez, des fois, c'est le changement de la perception, c'est le changement de la perspective, c'est tout ça qui va faire que l'art-thérapeute est un moyen très aidant dans différentes situations de vie.
Je vais y aller dans les thérapeutes. Le profil des gens, si les gens nous écoutent en ce moment, qui ont envie de... est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que vous remarquez que vos élèves se ressemblent? Qu'est-ce qu'on doit avoir pour être un bon professeur en art-thérapie?
Ou pour être une art thérapeute,
oui,
vous voulez dire?
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Pour être une bonne art thérapeute, je pense que les qualités principales sont d'être capable d'être à l'écoute, d'être capable de voir comment la transformation se fait chez une personne, d'être une artiste aussi, parce que c'est sûr que si les outils artistiques ne sont pas bien maîtrisés, c'est difficile d'accompagner une personne qui va les utiliser.
Oui.
Alors, c'est tout ça que ça prend pour être une art-thérapeute.
Et en terminant, au niveau des gouvernements, est-ce que vous trouvez que votre profession, est-ce que c'est reconnu? Est-ce que où vous devez vous battre?
On est dans une bataille parce qu'on n'a pas été reconnu comme psychothérapeute. Alors, on est dans une bataille pour la reconnaissance de ce qu'on fait. Oui, c'est très difficile. Ça joue beaucoup, je pense, sur le moral des art-thérapeutes actuellement, parce que comme les artistes, on a tendance à pas les prendre au sérieux. C'est un petit peu ça qui arrive avec
éternel combat, ça. Hein?
Oui, oui.
Éternel
oui,
combat. Alors donc on a tendance à pas prendre cette profession au sérieux, vous diriez? Ou...
C'est difficile d'être reconnu comme art-thérapeute, mais il reste que quand les gens sont sensibilisés, il y a plusieurs de nos étudiantes, par exemple, qui vont faire des stages dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des hôpitaux psychiatriques, à l'interculturel, dans le communautaire. Et aussitôt que les gens s'ouvrent à l'art-thérapie, on voit qu'ils sont intéressés à engager des art-thérapeutes à long terme. C'est qu'on voit que quand ça vient de la base, les gens y croient, les gens sont vraiment très impressionnés par ce que donne l'art-thérapie.
Ouais.
Maintenant, c'est comme si ça ne se rend pas en haut.
Il faudrait qu'ils prennent des sessions avec vous, ces gens-là.
Parce que,
oui, tout à fait, il n'y a rien que tel comme pour l'essayer. Et les résultats sont là, hein. On en parle, je veux dire, même dans les hôpitaux, partout, les gens, une fois que vous êtes passé en visite, ça a l'air qu'il y a les douleurs disparaissent. Les douleurs de l'âme sont là, mais elles disparaissent pendant un temps et les gens ont envie de reprendre des sessions, c'est ça?
Oui, absolument, oui. Puis avec différents, moi j'ai travaillé aussi, puis il y a plusieurs, par exemple avec la Société du cancer ou avec les personnes atteintes de cancer, c'était vraiment fantastique le travail qui peut être fait, parce que c'est sûr qu'on on travaille pas sur la douleur physique. Oui, on va travailler sur la douleur physique pour y trouver un sens. Mais en même temps, de travailler sur toute la douleur psychologique que la maladie laisse ou que la maladie, ça aide énormément les personnes.
À sortir les mots dans les deux sens, M-O-T-S et M-A-U-X aussi.
Exactement.
Hein, c'est ça. Oui. Merci beaucoup, Mme Ranger.
Mais ça me fait plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir.
Tenir le rythme, tiens les... déjà une femme troublante quand elle danse. Toute la musique s'éveille. Dans la nuit sculptée d'anges, le verbe n'est plus qu'un geste. Et de plus en plus terre à terre. Car je m'enterre tranquillement, ne croyant plus aux anges, voyant la beauté dans les angles des créatures qui me ressemblent.
On pouvait pas faire autrement que de passer cette chanson. Claude Dubois, artiste. Alors, je vais aller un petit peu dans mon passé, mesdames, messieurs, parce que quand ma recherchiste Christiane Campagna me parlait de ce segment au niveau de l'art-thérapie en prison, ça me rappelait il y a quelques années, on m'avait téléphoné pour aller chanter en prison, ce que j'ai fait et ce que j'ai adoré. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que la seconde fois qu'on m'a appelé, on m'a dit « Voudriez-vous faire de l'improvisation dans une prison à sécurité maximale ?» Ce que j'ai fait, mesdames, messieurs. Et je dois vous dire que les gens qui étaient là, moi, ça n'était que des hommes, dans une prison d'hommes, ils se sont laissés aller. Ça a été de l'improvisation incroyable. Et je vous dis, après, moi, j'étais recrinquée de voir cette énergie, de voir que ça leur faisait du bien, que ça sortait. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui riaient, qui se roulaient par terre. Et c'était fantastique. Alors, donc, ce segment, je veux absolument y aller parce que moi, je connais pas un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, les ficelles. Et mesdames, messieurs, je veux faire découvrir aussi avec Bénédicte Deschamps, art-thérapeute, qui a travaillé pendant 12 ans en milieu carcéral. Bonjour, madame Deschamps.
Oui, bonjour Sophie.
Ça va bien?
Très bien, merci vous.
Oui, quand je disais aux auditeurs que les gens, moi, mon épisode de donner une session d'improvisation à ces gens-là, les gens étaient transformés. Racontez-moi comment ça se passe, donc quel genre de clientèle et comment vous organisez tout ça à travers ce milieu carcéral?
Eh bien, moi, c'est ça. J'ai travaillé surtout en milieu carcéral féminin, bien que j'ai fait une saison aussi au centre de détention de Montréal avec les hommes. Mm-hmm. Et donc, à la Maison Tanguay, j'ai offert pendant 10 ans des services d'art-thérapie de groupe surtout, mais également des individuels à l'occasion. Et vraiment, une des choses que j'entendais le plus souvent de la part des participantes, c'était l'impression pendant 2 heures d'être ailleurs qu'en prison.
Oui.
Donc, tout de suite, ça leur offrait un espace d'expression où elles n'étaient pas jugées par rapport à leur comportement ou évaluées par rapport à leur perspective de sortie, de réhabilitation. C'était vraiment un endroit où elles pouvaient être elles-mêmes et partager ce qu'elles avaient à partager dans une atmosphère de confiance et aussi de prendre contact avec leur pouvoir de création. Parce que c'est ça qui est extraordinaire avec l'art-thérapie. C'est que c'est un médium qui permet à la fois d'exprimer des choses qui respirent sous la surface, des pensées, des émotions, mais aussi de prendre contact avec ce pouvoir de création.
Mm-hmm.
Hein, quand on fait une image, on l'amène d'un point A à un point B, c'est quelque chose qui se transforme sous notre influence. Et donc, c'était une grande découverte pour beaucoup d'entre elles. J'ai souvent entendu des femmes me dire qu'elles découvrent découvraient pour la première fois la capacité de faire autre chose que de tenir un joint ou c'est ça. Et finalement, ça permet de voir qu'on a un pouvoir dans notre propre vie sur le cours des choses.
Et comment ça se fonctionne? Parce que, bon, vous arrivez, est-ce que vous dites, j'ai des cours, des ateliers de peinture, de musique, et quel genre d'atelier, justement, vous leur proposez?
Ben moi, c'est ça, en tant qu'art thérapeute, c'est avec les arts visuels que je travaille. Donc, ça peut aller du peinture, dessin, collage, ou alors en trois dimensions, de la construction, de l'argile. Donc, tout ce qui est art visuel.
Okay.
Et c'était une activité, c'était pas obligatoire, c'est-à-dire que je faisais ma promotion dans les différents secteurs de vie et les femmes s'inscrivaient de leur propre chef. Et donc, je créais des groupes qui étaient des groupes ouverts, c'est-à-dire que les personnes purgeaient des sentences de différentes longueurs. Donc, ça m'arrivait d'avoir des personnes qui étaient dans un groupe pour une longue durée, des fois presque jusqu'à un an ou deux ans. Mais souvent, il y avait une partie du groupe qui rentrait, qui sortait selon leur sentence, qui pouvait aller de quelques semaines à quelques mois.
Est-ce que vous, je vous pose la question comme ça, est-ce qu'on vous disait ce qu'elles avaient fait ou pas du tout? Vous voulez rien savoir, vous arrivez et vous dites, voilà, moi, je veux pas rien savoir de ce qu'elles ont fait. Je les prends au temps présent.
Exactement, c'est ça. Je veux dire, ça pouvait m'arriver d'avoir certaines informations, mais généralement, non, c'est ça. Moi, c'était un espace où j'étais à leur écoute, quoi que ce soit qu'elles aient fait, quel que soit leur vécu. C'est ça. C'était vraiment, elles n'étaient pas jugées par rapport à ce qu'elles avaient fait. Je les accueillais dans le moment présent en tant que personne, comme vous dites. Et puis, souvent, l'impact immédiat, c'est que c'était vraiment un lieu où elles pouvaient venir baisser leur niveau d'anxiété, déposer en art-thérapie, à la fois en le partageant avec moi et dans leur création, déposer leurs préoccupations, leurs anxiétés, et retourner à leur secteur de vie dans un état plus calme. Et c'est pas rien, parce que c'est pas évident de vivre dans un secteur avec 12 à 20 autres personnes avec qui on n'a pas choisi de vivre et qui n'ont pas toujours nécessairement développé des aptitudes au niveau de la communication. Hein, je veux dire, juste nous, partager une vie avec un conjoint ou une mère, une sœur, c'est déjà un défi. Alors imaginez vivre à 20 personnes dans un secteur.
Tout à fait.
Donc ça leur permettait déjà de retourner avec un certain calme et de mieux vivre ce qu'elles avaient à vivre dans la journée.
Alors encadré par vous, justement, est-ce que vous encadrez? Comment vous faites? Parlez-moi de vos ateliers. Est-ce que vous arrivez avec votre matériel? Et ensuite, qu'est-ce que vous leur dites?
Bon, c'est ça. Moi, j'ai du matériel sur place à leur disposition. Et moi, la façon que je fonctionnais, étant donné que, comme je vous dis, il y avait un roulement régulier dans le groupe, je voulais pouvoir à chaque fois, aussi rapidement que possible, créer un sentiment d'unité, un sentiment de confiance et de cohésion. Fait que je faisais d'abord une activité de groupe. Je les invitais à faire un dessin ou un collage rapide pour exprimer soit l'état dans lequel elles arrivaient ou qui elles étaient ou quelles étaient leurs préoccupations. Et on partageait tout de suite cette image-là. Et ce qui arrivait bien souvent, c'est qu'elles pouvaient se rendre compte que, même si elles connaissaient pas les autres personnes dans le groupe, qu'elles vivaient toutes des choses très semblables. Alors, tout de suite, c'est ça, ça scindait le groupe. En fait, plutôt, ça créait une unité. Et ensuite, elles étaient libres de faire ce qu'elles voulaient avec le matériel d'art. Et ça leur permettait d'avoir un moment où elles avaient le loisir de choisir quelque chose par elles-mêmes et d'être maîtres de ce qu'elles allaient faire, parce qu'elles vivent dans un environnement où elles, en prison, c'est-à-dire où elles ont très peu de liberté de choix.
Ah non, elles sont toutes encadrées, là.
C'est ça.
C'est le cas de le dire.
Exactement. Donc, c'est comme ça que je fonctionnais. Au début, une activité de groupe, et ensuite, elles étaient libres de créer ce qu'elles voulaient. Et à la fin, il y avait un moment de partage en groupe où on visitait un peu ce que chacune avait fait. Des fois, on en parlait et on finissait avec un moment de silence et de contemplation, puis le partage d'un mot ou d'une courte expression en terminant.
Alors, les œuvres, les premières, je parle des premiers ateliers, les premiers temps, elles ressemblaient à quoi?
Ben, souvent, les choses qui émergeaient dans ce qu'elle faisait, dessin ou collage, là, on parle, c'est ça, de l'œuvre qu'elle faisait au début de l'atelier. Bon, il y en a beaucoup qui sont mamans. Donc, il y avait souvent des préoccupations par rapport aux enfants. Ça, c'est vraiment un thème qui revenait souvent. Là, c'était combien elles s'ennuyaient de leurs enfants, où est-ce que leurs enfants, comment étaient leurs enfants là à l'extérieur, tout le fait de vivre cette séparation-là. Donc, ça, c'est un thème.
Donc, beaucoup d'enfants, j'imagine, qui étaient à travers les sculptures ou bien les dessins. Est-ce qu'ils étaient là, ils étaient dessinés?
Oui, dans les collages, c'est ils allaient chercher dans les revues des images d'enfants ou dans les dessins, c'est ça. Mmh. Vraiment, c'est quelque chose qui revenait. Ou même ensuite, quand elle faisait une création libre, souvent, ça allait être des cadeaux, hein, quelque chose qu'elle créait pour pouvoir offrir à leur famille, à leurs enfants en sortant. Donc, ça, c'est un des thèmes récurrents. Mais il pouvait y avoir beaucoup de choses aussi au niveau des relations, les relations hommes-femmes, des choses de cette nature-là, comment on arrivait à s'entendre, à créer quelque chose. Et aussi, bon, on s'imagine souvent, les gens me demandaient quand je travaillais dans ce milieu, vous trouvez pas ça dur d'être avec des personnes incarcérées et tout ça? Mais en fait, c'était souvent des personnes qui avaient vécu des choses difficiles dans leur passé, qui étaient blessées.
Mmh.
Et ce qui me touchait, c'est
qu'elles... oiseaux fragiles.
Oui, et elles rêvaient encore à trouver le bonheur. Donc, dans leurs images, souvent, il y avait des choses qui relevaient de la quête du bonheur, même du prince charmant, de la maison, du chien. Il y avait ce désir d'arriver à un état de stabilité, de bonheur.
Mmh, mmh. Et vous, Madame Bénédicte Deschamps, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que là, les gens vous ont dit, bon, t'as pas peur. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté quand vous étiez dans ces ateliers-là? Comment vous étiez?
Eh bien, moi, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pas pour rien que j'ai travaillé en milieu carcéral féminin. Le choix était pas nécessairement complètement conscient, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me touchait beaucoup dans le fait de vivre l'incarcération. Alors, j'ai voulu aller apporter ce service-là, mais je me suis rendu compte aussi qu'à un niveau inconscient, je pense qu'on sait tous qu'est-ce que c'est que de l'enfermement, même si on n'est pas incarcéré, de se sentir pas complètement libre, d'être soi-même et de vivre et d'avoir une emprise aussi sur sa vie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cette nature-là qui me rejoignait vraiment.
Mm-hmm.
Et puis, c'était très touchant.
Merci beaucoup.
Oui,
merci, on va à la pause publicitaire. Le temps nous fait la guerre, malheureusement.
Ben, merci beaucoup.
Merci, Madame Deschamps.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Et vous, mesdames, messieurs, comment vous vous évadez avec l'art? Qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez, vous faites des poèmes. Alors, on a, vous pouvez nous écrire. On a Nicole qui nous dit, elle, c'est en jouant de la guitare acoustique qu'elle s'évade. Qu'elle a même que Claudia Benoît est en studio pour emmener tous vos commentaires. On poursuit avec aujourd'hui comment s'épanouir avec l'art, et c'est la directrice générale Lola Noël de La Fenêtre, c'est un centre d'immersion aux arts en Mauricie. Bonjour Madame Noël.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci vous-même.
Oui, parlez-moi de la genèse de votre entreprise, comment ça a fonctionné, pourquoi avoir ouvert et pour qui?
Alors, La Fenêtre est née en 1998, suite à l'intervention d'un regroupement d'organismes qui travaillait déjà auprès des personnes handicapées et qui voulait partager des besoins communs, si vous voulez. Qu'on pense à du maquillage pour la scène, qu'on pense à un photocopieur. Alors, en mettant tout le potentiel de chacun des organismes ensemble, chacun pouvait à ce moment-là économiser des coûts sur toutes sortes de choses. Alors, La Fenêtre est venue au monde de cette initiative-là, à l'initiative de Mme Marie-Josée Plouf, qui est professeure de théâtre à l'UQTR. Et ça a commencé tout doucement comme ça, dans passez-moi l'expression, une cabane pour patineurs au parc Pidouze. Alors, c'était tout simple, mais ça répondait à un besoin immense qui était d'offrir des ateliers d'art à des personnes handicapées. Alors, c'est comme ça que la fenêtre est née.
Alors, la fenêtre est née de cette façon-là. Pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, est-ce que ces personnes-là n'avaient pas de lieu, d'endroit? C'était un grand besoin? Est-ce qu'on vous le disait, j'aimerais bien prendre des ateliers, mais on ne m'offre pas d'atelier pour moi? Comment ça fonctionnait?
Ben, c'est exactement ça. C'est qu'il y avait déjà des organismes qui s'occupait d'offrir des services aux personnes handicapées, mais pas dans le domaine de l'art spécifiquement. Mmh. Alors, vous savez, c'est très difficile pour une personne en fauteuil roulant d'avoir accès à un centre d'art, par exemple, ou à une école d'art, si ceux-ci sont pas adaptés. Mmh. Alors, là, il était vraiment le besoin était criant, c'était demandé, et il n'y avait pas de service qui était offert aux personnes handicapées.
Non, ils étaient laissés pour compte, comme on dit.
Tout à fait.
Mmh. Alors là, pour remédier à ça, la fenêtre s'est ouverte. Qu'est-ce qu'on vous demandait? Est-ce que les gens arrivaient avec une vraie liste d'épiceries artistiques en disant « moi, je veux jouer de la musique, je veux faire de la peinture », est-ce que ça y allait comme ça? Comment ça se bousculait?
Je pense pas qu'il y avait à ce moment-là une liste d'épiceries, comme vous dites. Cependant, dans la volonté des fondatrices, on voulait aborder tous les types d'art. Ce qui fait qu'à la fenêtre, on a développé des ateliers en théâtre, bien sûr, mm-hmm. mais aussi en peinture, en art plastique, en chant. Et il y a quelques années, on a même ouvert un atelier en travail du verre.
Mm. Et donc, ça a commencé dans la cabane avec le théâtre.
Voilà.
Il y avait combien de personnes au tout début?
Peut-être une douzaine de personnes.
Ah, quand même.
Et ça s'est développé tout doucement avec, évidemment, l'investissement des autres organismes dont je vous parlais tantôt, organismes et associations, qui nous référaient des gens qui leur demandaient à eux d'avoir des ateliers d'art. Alors, aujourd'hui, bon an, mal an, on a environ 125 personnes qui suivent nos ateliers et ça représente tout près de 300 inscriptions pour nos cours.
Alors, qui donne les ateliers?
Alors, ce sont des professeurs artistes, c'est-à-dire que pour être enseigné chez nous, il faut d'abord que vous soyez reconnu en tant qu'artiste dans votre champ de spécialité, mm-hmm. ce qui veut dire, par exemple, que notre professeur de peinture est une artiste professionnelle qui expose en galerie, qui a déjà fait des expositions. Alors, ça va comme ça pour chacun de nos ateliers. La personne doit être à la fois compétente dans son champ d'activité, mais aussi compétente au niveau de l'enseignement et de la pédagogie, mm-hmm. parce que nos professeurs sont rémunérés par la commission scolaire, le service aux adultes, intégration sociale.
Et sur le plan physique, tout à l'heure, vous avez parlé de la cabane au début. Là, comment ça se fonctionne?
Ça a beaucoup changé. On n'est plus dans une cabane maintenant. On a un très, très grand local pour accueillir toutes nos activités qui est situé au centre-ville sur la rue Saint-Georges. Alors, les gens viennent chez nous. Ce local-là est adapté. On peut recevoir des personnes en fauteuil roulant. Alors, il n'y a plus de problème. On est loin de la cabane.
et quel âge ils ont, cette clientèle-là?
C'est très, très variable.
Ouais.
Ça peut être de 16 ans. Si je ne m'abuse, notre participant le plus âgé a 78 ans.
Oh, c'est bien.
Oui, très bien. Il fonctionne encore et il adore ça.
Allez, parlez-moi des bienfaits de l'art pour vos participants, justement. Comment ils sont après, au début, pendant les ateliers?
Ben, je vous dirais que les bienfaits, ils sont immenses. Si on avait des témoignages des participants, plusieurs vous diraient qu'ils ont complètement changé depuis qu'ils fréquentent la fenêtre, parce que plusieurs sont arrivés ici complètement défaits, très seuls dans la vie. J'ai en tête une personne qui venait d'avoir un diagnostic qui lui disait qu'elle passerait le reste de ses jours en fauteuil roulant. Alors, je peux vous dire que c'est pas toujours facile à accepter. C'est jamais facile à accepter. Mmh. Ça prend du temps. Et au tout début, quand elle était arrivée ici, c'est à peine si elle descendait les marches, elle regardait ce qui se passait et s'en retournait chez elle. Aujourd'hui, c'est non seulement quelqu'un qui est très épanoui, qui a participé à plusieurs de nos ateliers, mais qui, en plus, à l'occasion, est porte-parole pour la fenêtre pour témoigner des bienfaits qu'elle en a retirés. Alors, évidemment, au niveau des bienfaits, il y a l'apprentissage de l'art. C'est déjà beaucoup en soi, mais c'est aussi une valorisation. Ça remonte énormément à l'estime de soi.
Mais oui. Et est-ce qu'ils font des spectacles, des expositions? parce qu'il y a une communion avec le public qui doit se faire, j'imagine. Est-ce que vous organisez ça aussi?
Oui, tout à fait. Régulièrement, on organise des expositions. On organise aussi minimalement un spectacle par année qu'on appelle, nous, le spectacle de fin d'année, dans lequel les gens présentent ce qu'ils ont appris en cours d'année. Mm-hmm. Parce que nous, on fonctionne selon les horaires scolaires, alors de septembre à décembre et de janvier à juin. Alors, au mois de juin, on présente le grand spectacle final à laquelle participent les participants en théâtre, bien sûr, mais aussi les participants en chant, et les décors sont faits par les participants en art plastique. Alors, c'est vraiment un regroupement là de à peu près tout ce qu'on fait ici, mais on fait aussi des expositions de peinture. Notre dernière exposition concernait le travail du verre. Il avait lieu à la salle Pauline Julien, au centre culturel Pauline Julien. Et pour cette exposition-là, La Fenêtre a remporté un grand prix culturel l'année dernière.
Parlez-moi de ceux qui montent sur la scène parce que c'est quelque chose, parce que sans doute c'est leur première fois de leur vie. Comment ils sont? Est-ce qu'ils ont le trac? Est-ce qu'ils ils se disent « Ah, moi, j'aurais jamais cru que j'aurais pu monter sur une scène ». C'est quoi les commentaires après avoir joué sur la scène?
Vous pouvez imaginer à peu près tous les commentaires. Oui, ils ont le trac, mais en même temps, ils sont très excités de se produire devant le public. Pour plusieurs, oui, c'est une première. Ils n'auraient jamais cru pouvoir en arriver là un jour. Mais pour d'autres, ça fait plusieurs années qu'ils viennent suivre des cours chez nous. Alors, ils ont l'expérience, mais le trac est toujours là. Mais je vous dirais aussi beaucoup, beaucoup de fierté. Mmh. Être capable de montrer à la famille, aux parents, aux amis, ce qu'on a réussi à faire au cours d'une année, pour eux, ça, c'est vraiment... C'est un cadeau du ciel.
Alors, pour les inscriptions, terminant, est-ce que vous avez un site si des gens nous écoutent et sont intéressés à prendre vos ateliers?
Oui, bien sûr. Ils peuvent nous contacter par téléphone. C'est encore ce qui est le plus efficace, au 819-697-2787. Et vous pouvez aller voir notre site Internet sur lequel, entre autres, sur la page d'accueil, il y a une vidéo qui montre nos ateliers ici avec les participants. Et je pense que ça donne un très bon aperçu de ce qu'on peut faire ici. Alors, notre site, c'est la fenêtre 3R, le 3 étant en chiffre, .org.
Merci, Mme Noël.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Ça se poursuit, mesdames, messieurs. Maître Hélène Sioux Trudel, directrice et fondatrice du Garage à musique du Docteur Julien, est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Quand on entend des beaux témoignages comme ça, que l'art rend la vie meilleure, c'est vrai?
Oui, en fait, c'est plus que ça. C'est un droit fondamental pour nous. C'est des actions qu'on doit... en fait, c'est l'art comme la musique, par exemple, avec le Garage à musique. Pour moi, c'est un droit fondamental, des outils puissants de développement. Et puis, ça devrait être accessible de façon démocratique à tout le monde.
Mm-hmm. Alors, parlez-moi de cette idée, parce que, bon, la fondation du Dr Julien, on sait qu'il fait énormément. Et on est reconnaissant et c'est fou, là. Il se bat tous les jours pour le financement et il ajoute toujours des volets. Et ce volet-là est arrivé quand?
Oui, en fait, c'est moi qui ai développé, en fait, c'est mon conjoint, donc il est médecin, moi je suis avocate, avec le droit, la combinaison du droit et de la médecine, on arrive à, et avec le travail social, on arrive à défoncer des barrières pour faire respecter les droits des enfants. Mm-hmm. Mon rôle, moi, c'est plutôt de faire des projets de développement, des projets innovateurs pour faire respecter justement les droits des enfants dans les quartiers défavorisés. Le Garage à musique est un projet à grande échelle que j'appelle, qui suit en fait un autre projet, le Cercle de l'enfant ou l'Alliance entre le droit de la médecine.
Alors le Garage à musique, c'est arrivé, les jeunes commençaient à jouer de la musique, mais un petit peu comme ça, là, sans avoir de véritable rendez-vous. Et puis, vous avez décidé d'officialiser, de rendre ça organisé, raconté.
Ma mère trouvait que la musique était importante. Donc, les 6 enfants, on a pratiqué la musique, malgré qu'on était quand même une famille à revenus faibles. Et puis, elle a toujours cru que c'était un moteur de développement, en fait. Alors, lorsque j'ai travaillé avec mon conjoint, j'ai vu que les enfants n'avaient pas accès à la musique. Et puis, pour moi, ça faisait pas de sens puisque je l'avais eu, moi. Et puis, j'ai initié, en fait, j'ai demandé à quelqu'un de nous donner un piano.
Tu as commencé par le piano, le premier instrument?
Le piano est arrivé au centre de pédiatrie sociale et avec un bénévole, et avec les guitares et un bénévole qui suit. Puis, je trouvais ça triste que c'était seulement pour les enfants de la clinique du docteur Julien. Et puis, je me suis dit, on peut changer un quartier avec un projet d'une ampleur comme le Garage à musique, avec la musique, la pédiatrie sociale et l'accompagnement scolaire adapté aux besoins des enfants pour faire respecter les 41 droits de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Alors, le piano est arrivé. Et là, vous disiez, bon, ben, c'est pas juste. Les gens de la Fondation viennent, les enfants de la Fondation, mais il y a quand même des gens dans des maisons juste à côté qui écoutent ce beau son et qui n'aura jamais l'occasion de toucher une guitare acoustique ou autre.
C'est ça.
Et c'est ça, donc c'est parti comme ça.
C'est parti comme ça, oui. Et puis, en étudiant d'autres projets similaires à travers le monde, j'ai connu le projet de Maestro Abreu du Venezuela et le projet El Sistema, qui, depuis 1975, a attiré des enfants des secteurs très, très, je dirais, très défavorisés du Venezuela. Et puis, leur a permis d'avancer dans la vie avec un instrument de musique.
Avoir confiance en eux.
Et plus que ça, parce que ça développe le cerveau, en fait. C'est lorsqu'on commence à lire sur la musique, on se rend compte de cet outil, la puissance de cet outil pour développer même la structure du cerveau et aller plus que l'estime de soi, on peut l'avoir avec tous les autres arts, aussi le sport, etc. Et tout le social, on peut l'avoir aussi avec d'autres arts. Mais la musique, en fait, est un instrument, est un outil extrêmement puissant de développement. Et puis, en fait, on l'étudie beaucoup à le Laboratoire international de recherche sur le cerveau et la musique et le son, BRAHMS, qui est connu internationalement. Et puis, c'est assez surprenant tout le développement que le cerveau peut subir, en fait, positif, et puis qu'on ne fasse rien, puis ça ne coûte pas énormément cher pour permettre l'apprentissage d'un instrument à l'enfant.
Alors, racontez-moi le Garage à musique, comment ça fonctionne, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir le spectacle qu'ils ont donné, finalement.
À la maison, symphonique?
Oui, tout à fait, c'était sublime. Mais je savais tout ce qu'ils avaient fait avant. C'est-à-dire que, bien souvent, personne ne lisait la musique. Tout le monde se disait, je veux jouer de la flûte, mais je ne sais pas comment je vais y arriver. Mmh. Et puis, arriver sur la scène, c'est fou, là. Alors, dans les faits, ils ont quel âge? Et est-ce qu'ils doivent connaître un instrument où ils arrivent comme ça? Puis le professeur dit, ton rêve, c'est de jouer du piano. À la fin, tu vas être capable de jouer une pièce. Ça fonctionne comment?
En fait, non, ça commence avec le docteur Julien dans sa clinique.
Oui.
C'est une prescription médicale que d'envoyer un enfant vers le Garage à musique pour respecter ses droits, en fait, aussi. Et puis,
D'accord, ça commence avec la prescription médicale.
C'est ça.
Intéressant, ce que je n'avais pas d'ailleurs.
65 à 70 % des enfants sont référés par la clinique du docteur Julien, à mon projet, qui est un projet pilote, en fait, sur 5 ans. Mais on espère vraiment à renouveler, avoir des investisseurs qui s'intéressent à nous pour continuer. Donc, les enfants sont de 0 à 20 ans. Mm-hmm. La grosse majorité, donc, de l'âge de l'école primaire et secondaire. Donc, okay. 6 à 17 ans. Et on ouvre aussi à 0,5 ans pour avoir toute la possibilité, la force de développer les fonctions cérébrales.
Alors, donc, ils arrivent, ils ont la prescription. Mm. Ensuite, ils ont un professeur. Ils sont des professeurs chevronnés. Hein,
tous les professeurs qui sont employés au Garage à musique sont des gens extraordinaires, premièrement, qui ont aussi qui croient à la cause
qui ont une sensibilité.
Des enfants, qui ont une grande sensibilité. Et puis, en fait, ce sont des professeurs de musique en pédiatrie sociale. Comme moi, je suis une avocate en pédiatrie sociale. Eux doivent être formés en pédiatrie sociale. Ils s'intéressent à l'enfant. Tous les enfants qui entrent dans le Garage à musique, la première chose qu'ils veulent jouer, ben, c'est sûr, c'est la guitare, c'est le piano c'est la batterie.
Ah ben oui, la batterie. J'aurais même mis la batterie, là, ça, ouais, en premier. Oui, toujours.
Mais dans le sens qu'ils ne connaissent rien d'autre. Ouais. Et donc, nous, le rôle, c'est de les apprivoiser puis de les amener à jouer un instrument d'orchestre dans la même philosophie de El Sistema, pour qu'on puisse faire de l'harmonie ensemble, de plus en plus d'enfants. Et puis, même ceux qui taxent ou sont taxés, en fait, du bullying, là, qu'on appelle en anglais, se retrouvent dans le même orchestre. Oui.
Alors, c'est intéressant parce qu'il y a finalement cette troupe-là qui se forme, et donc des liens d'amitié qui doivent se créer très, très fort, quoi.
Et puis les écoles, en fait, on a invité les écoles à venir, l'école qui est voisine, et 50% des enfants dans des quartiers défavorisés ne sont pas prêts pour l'entrée scolaire réussie. Alors, on invite les enfants de l'école à venir avec leurs professeurs et puis travailler ensemble pour créer une œuvre et puis avancer au cours de l'année. Et on nous dit que ça change énormément l'atmosphère, l'harmonie dans l'école.
Alors la musique, ça vraiment ses preuves. Je vous souhaite que ça dure 5 ans et au-delà, et surtout que les gens se réveillent et donnent, parce que c'est vraiment une cause. Et tous les bienfaits sont là. En terminant, peut-être donner le lien, et il y a la guignolée qui arrive aussi, j'aimerais vraiment le mentionner, important.
Le 13 décembre, en fait. Et puis on accepte les dons d'instruments qui dorment, en fait. Les dons, cette année, c'est vraiment, on cible les instruments à cordes, les violons, les petits violons aussi.
On peut l'apporter la journée de la guignolée?
Tout à fait.
Mais si quelqu'un nous entend qu'il y a une guitare qui dort, aujourd'hui, on peut aussi...
Les guitares, oui, on en a beaucoup, mais on cible beaucoup plus les instruments d'orchestre. Les instruments à vent aussi qui dorment. Mm-hmm. C'est beaucoup plus difficile, on ne peut pas les passer. Il faut les donner pratiquement pour la session.
Alors, parfait.
Mais il faudrait dire, si je peux, que ce ne sont pas juste les gens de la communauté qu'on veut intéresser, c'est vraiment les gouvernements qui se penchent sur cet instrument, cet outil important et puissant.
Tout à fait, un gouvernement ouvert sur la culture.
Mais c'est plus que la culture, c'est un droit fondamental.
Un droit pour les enfants.
De développement.
Oui, merci beaucoup. Merci Madame Trudel.
Merci.
Question de Sophie, dernier segment de l'émission. Vous savez, le coup de chapeau à la fin, ce sont des gens qui font énormément sur notre sujet du jour et on leur dit merci à notre façon. C'est difficile parfois parce qu'on en a plusieurs coups de chapeau et faut choisir, comme on dit. Alors, Lorraine Ballardy, elle est présidente fondatrice des Impatients. Bonjour, Madame Ballardy.
Bonjour, Madame.
Ça va bien?
Ça va très bien, je vous remercie.
Alors, votre organisme vient en aide aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Alors, racontez-moi dans les faits comment ça se passe.
Écoutez, présentement, aux Impatients, il y a plus de 450 participants par semaine qui fréquentent les ateliers. Mm-hmm. Et ce sont des ateliers donc de création qui sont offerts aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, ce sont des ateliers de dessin, peinture, des ateliers en trois dimensions. On a un atelier de bande dessinée. On a aussi des ateliers de musique. Alors, on essaie de couvrir les activités artistiques. Prochainement, on devrait démarrer en collaboration avec une troupe de théâtre qui s'appelle Danse Danse à Montréal et un projet de danse avec les participants.
Alors, est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous avez plusieurs adresses? Comment, dans les faits, on peut vous retrouver? Par exemple, il y a quelqu'un qui serait à l'écoute, qui aurait des problèmes à ce niveau-là et qui a envie de s'inscrire. Comment la personne fonctionnerait?
La personne peut tout simplement téléphoner aux Impatients, donc à ce qu'on appelle, nous, la maison mère, qui est située au 100 rue Sherbrooke à Montréal. Mm-hmm. C'est tout près de Saint-Laurent. Elle peut téléphoner au 514-842-1043 pour demander dans quel atelier elle peut encore s'inscrire. Alors, il y a des listes d'attente, mais on fait toujours attention pour répondre favorablement aux personnes qui font appel à nos services.
Parce que les services sont gratuits, c'est ça?
Parce que les services sont complètement gratuits. Il y a des ateliers, on est au centre-ville, on est aussi en collaboration avec l'Institut Douglas au centre Wellington, on est à Drummondville et on est aussi à Montréal-Est. Donc, il y a différents ateliers qui sont justement situés un peu partout et qui peuvent répondre aux besoins.
Et vous publiez, je ne sais pas si ça se fait encore, mais des textes des gens de votre clientèle. Est-ce que vous allez le faire encore de publier?
Cette année, on a cessé la publication de ce qui était un peu la carte de visite des Impatients, qui uh-huh. était le coffret 1000 mots d'amour.
C'est ça.
Par contre, demain, justement, on va lancer une première bande dessinée avec des BDS professionnels. Et cette bande dessinée-là va être en vente dans les librairies chez Renaud Bré, entre autres. Et tout ça est fait grâce à un commanditaire qui est bien précieux pour nous, c'est la Uniprix, qui a commandité ce projet. Malheureusement, on a suspendu la production du coffret, mais c'est pour mieux revenir.
Mmh. Parlez-moi des duos improbables.
Alors, les duos improbables, c'est justement, ce sont un CD qui a été lancé il y a à peu près 3 semaines et qui est un magnifique objet, qui est un objet qui regroupe des artistes professionnels mm-hmm. avec des Impatients aussi ou des chanteurs qui mm-hmm. sont comme... c'est un peu jouer à l'improbable finalement, des gens qui n'auraient pas nécessairement pensé travailler ensemble et qui sont réunis. C'est la même chose qu'on a fait, comme je vous disais tantôt, avec la bande dessinée qui va sortir demain. Donc, vous avez des gens comme... juste pour vous nommer parmi les plus connus, Serge Chapleau mm-hmm. avec Denis Côté, qui est une personne connue qui a écrit le scénario et là, qui va dessiner la bande dessinée. Donc, c'est un peu le jeu des duos improbables.
Alors, notre question du jour, c'était comment s'épanouir à travers l'art. Madame Ballardy, quand vous voyez vos clients, comment vous les trouvez? Est-ce que vous les trouvez épanouis?
Écoutez, je pense que la différence, elle est marquante et elle est souvent, moi je le remarque étant quelqu'un qui, notamment qui est aux Impatients mm-hmm. tous les jours, quand on voit arriver des gens pour la première fois, l'attitude est souvent fermée, juste physiquement, il y a comme un esprit vraiment qui n'est pas dans la communication. Et avec les ateliers, avec un petit peu, je dirais presque le miracle que les ateliers font au quotidien avec la clientèle, je pense qu'on se rend compte rapidement mmh. que les gens sont prêts à communiquer. Et vous savez, on le voit tous les jours et je suis pas peut-être la bonne personne pour vous donner tous ces témoignages-là, mais les bienfaits sont là, sont là sur le plan personnel d'abord, parce que si on se sent mieux dans sa peau, on est capable après ça d'entreprendre, de communiquer avec les autres, et c'est souvent le début de la guérison.
Et vous avez des beaux chefs-d'œuvre, des beaux poèmes que j'ai eu l'occasion de lire, qui sont absolument magnifiques, des impatients. Merci beaucoup, Lorraine Palladi.
Les talents sont énormes.
Ah oui, tout à fait. Oui, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, c'était donc les questions de Sophie aujourd'hui au niveau de l'art. Que des beaux témoignages, hein. J'espère que vous allez vous y mettre parce que ça fait beaucoup de bien. On a vu ça pendant 60 minutes avec tous nos spécialistes. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Merci à mon équipe. Jean-Sébastien de la Liberté à la réalisation de l'émission, Christiane Campagna, ma recherchiste, et Claudia Benoît au site web. Et puis, vous pouvez toujours nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye!